Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera, lapin, on triga, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Clara a 19 ans lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte. Clara découvre qu'elle est enceinte le jour même de son accouchement. C'est ce qu'on appelle le déni de grossesse totale. 9 mois sans qu'elle ne sache qu'elle porte la vie. Le véritable choc. Si elle a bien eu quelques symptômes pendant ces 9 mois, Clara a vu des médecins qui ont mis cela sur le dos du stress de ses études. Au cas où, elle a quand même fait un test de grossesse qui s'est révélé négatif. Et c'est une nuit que tout bascule. Des douleurs intenses, un médecin à son chevet, des ambulanciers, une fissure de la poche des os et la nouvelle tombe. Mademoiselle, vous allez accoucher. C'est donc sans aucune préparation que Clara va donner naissance à cet enfant qu'elle n'attendait pas. Aucune préparation non plus pour aimer ce petit garçon qui a déboulé dans sa vie. Si Clara est tout de suite à l'aise pour prendre soin de son bébé, il lui faudra un long moment pour apprendre à devenir mère et à se reconstruire. Bonne écoute. Bonjour Clara.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci de m'accueillir.
Alors, tu es la maman de 2 enfants.
Oui.
Un petit garçon qui a 5 ans.
Oui, et presque 6.
Presque 6. Et ta petite chérie qui est dans tes bras, qui a quel âge?
Elle va avoir 10 mois.
10 mois. Alors, tu as une histoire assez intense, une entrée assez fracassante dans la maternité. On va revenir un petit peu au tout début. Toi, tu étais en couple depuis combien de temps?
On coupe depuis 5 ans, depuis nos 15 ans.
Ouais.
Voilà, c'était assez tôt. On s'est rencontrés au collège. Donc ça a tout de suite matché entre nous.
Ouais.
Pour nos études, on avait pris un appart ensemble. Voilà, c'était plus simple, on était plus près. Et puis on avait une vie d'étudiant plutôt classique. Jusqu'au jour où au final, j'ai appris que j'étais en train d'accoucher.
Toi, est-ce que tu avais déjà pensé à une future maternité? Est-ce que tu rêvais d'être maman depuis la tendre enfance?
On ne peut pas dire que je rêvais d'être maman. C'était pas mon souhait le plus tendre. On avait projeté d'avoir des enfants. On avait toujours dit avec mon chéri qu'on en aurait 2. C'était un chiffre qui nous plaisait bien, voilà, 2. Mais c'était vraiment pas pour maintenant, c'était dans un futur assez lointain. Et puis ouais, c'était pas une envie particulière, la maternité ça me touchait pas. J'étais pas jalouse des mes amis qui étaient enceintes, donc ça nous faisait vraiment tomber dessus complètement par hasard.
Et alors, donc comment s'est passé ces 9 mois où justement t'as pas su que tu étais enceinte?
Je vivais une vie d'étudiante plutôt normale. Je sortais un petit peu avec des amis. Je buvais même un petit peu, on va pas se cacher. Hein. Voilà, on sortait pas mal. Et puis la journée, j'allais en cours et le soir, on se retrouvait avec mon chéri. Et j'ai été malade à partir de l'automne. Automne-hiver, j'ai commencé un petit peu à être malade, pas bien, grosse fatigue, perte de poids, du mal à dormir. J'avais souvent des problèmes de digestion. C'était vraiment, j'avais du mal des fois à manger des trucs si c'était trop gras ou trop. Enfin, je digérais pas. C'était vraiment très. C'est nouveau pour moi, je suis un peu douillette, je vais pas trop dire ça, mais je suis un peu douillette, mais je suis pas souvent malade, je vais pas dire ça. Donc vers le mois de décembre, j'étais vraiment pas bien, Et je suis allée voir le médecin qui m'a envoyée chez le gynécologue parce qu'il pensait que c'était ma pilule qui n'était pas adaptée vu les douleurs que j'avais. J'avais souvent des douleurs au ventre. Mes règles, elles étaient hyper abondantes. Mais j'avais des règles tous les mois, classiques, comme toutes les femmes normalement. Et donc je suis allée voir le gynécologue et il m'avait dit que comme j'allais passer mon BTS dans les prochains mois, c'était pas le moment pour changer un contraceptif et on attendrait et que de toute façon il y avait le stress, il y avait tout ça qui rentrait en jeu. Donc j'ai quand même fait un test de grossesse parce que voilà, j'avais... Il y avait un truc qui allait pas, il fallait que je sois sûre. Et prise de sang, revenue négative. Donc bah, la vie continue, on a continué à sortir et on a continué à...
Ah oui, t'as fait une prise de sang?
J'ai fait une prise de sang, voilà. Avec, oui. Quand je suis allée voir le laboratoire et j'ai fait une prise de sang pour un test de grossesse, s'il vous plaît, elle m'a dit, vous pensez être enceinte de combien? Je lui ai dit, mais je sais pas, voilà. Je lui ai dit, ça fait quelques temps que je suis pas bien, que j'avais des petites nausées, tout ça. Elle me dit, bon, bah ok. Et puis donc, le test...
Parce que là, t'étais à combien de mois?
Donc en fait, au mois de décembre, quand j'ai fait mon... J'étais à 5 mois.
D'accord.
5 mois de grossesse. Ouais. Donc il n'y avait plus les taux d'hormones qui sont suffisants pour détecter une grossesse. Avec un test classique, en fait.
Donc là, ça passe à la trappe.
Ça passe à la trappe. Et voilà, moi, une fois que ce test négatif... Je reprends ma vie. Enfin, c'était pas. J'étais persuadée que j'étais pas enceinte. C'était pas possible. Non seulement je prenais la pilule, en plus j'avais mes règles et en plus le test était négatif. Okay. Donc on a continué notre petite vie, quoi. Jusque.
T'étais toujours malade ou ça allait un peu mieux?
C'était un peu mieux. C'était un petit peu comme l'espèce. Enfin, le test a été un peu comme révélateur de me dire j'ai rien. Mm. Donc tout va bien, donc t'es pas malade. Il y a eu, jusqu'à la naissance de Lucas, il y a eu cette espèce de constante grosse fatigue. D'accord. Et j'ai continué à perdre du poids, mais il n'y avait rien de plus. Je suis une grande stressée, toujours je mettais le compte sur le stress de mon BTS qui approchait. Ouais. Jusqu'au mois d'avril. Je me rappelle, c'était un jeudi, le 9 avril. On a marché toute la journée parce qu'on s'est promené dans Nancy où on habitait. Et tout allait bien. C'était vraiment. On a mangé des pâtisseries et tout. Et le soir, on s'est couché. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment avoir des douleurs très intenses au ventre. Et donc, vers 1h du matin, les douleurs, ça faisait 1 heure que j'avais mal au ventre. Et là, ça devenait vraiment à la limite du supportable. J'étais à 4 par terre, je pouvais plus bouger. C'était vraiment très très intense. Et je sentais vraiment, c'était profond. J'ai pris un bain, je suis allée aux toilettes... J'ai tout essayé, il n'y avait rien qui faisait passer. J'ai pris des space-fonds, j'ai pris... Et vers 2h du matin, j'ai dit à mon mari, mon compagnon à l'époque, je lui ai dit, c'est plus possible, c'est pas possible. Il faut absolument appeler, faire quelque chose, appeler le SAMU. J'étais un petit peu en panique. Donc il a appelé le SAMU et il a commencé à décrire mes symptômes. Alors moi, j'étais toujours à 4 pattes par terre en train de souffrir... Et mon mari était debout en train d'appeler le SAMU et il décrit les symptômes. Et c'est là qu'ils disent « passez-moi là ». Et ils ont commencé à me faire la douleur sur l'échelle de 1 à 10. Moi, là, j'étais déjà à 9. Ouais, c'était vraiment très intense, très intense. Et ils m'ont dit « vous n'êtes pas enceinte ». Je dis « non, je ne suis pas enceinte, c'est pas possible ». Alors je commençais un petit peu à paniquer parce que je sentais au bout du fil que la personne, elle savait pas ce que j'avais. Donc il m'envoie un médecin de garde. Le médecin de garde, il met un peu de temps à arriver. Vers 2h30 du matin, il arrive. Et là, pendant 1h30, il est resté à côté de moi. Moi, j'étais allongée sur le lit et lui, il était à côté de moi en train de m'ausculter et de me poser plein de questions. Et Il n'était pas très sympa, il ne les mettait pas à l'aise, ça n'a pas facilité les choses. Hein. Il était un peu sec et il a commencé à m'ausculter le ventre et tout ça. Il ne voulait pas que je bouge, j'étais couchée sur le dos, il ne voulait pas que je bouge. Mais moi, j'étais bien à quatre pattes par terre à me tordre.
Oui.
C'était vraiment la seule position dans laquelle j'étais bien. Et il m'a dit, vous êtes enceinte? J'ai dit, ben non, c'est pas possible. J'ai fait un test, j'ai mes règles, je prends la pilule. Je dis, non, c'est pas possible. Il me dit, mais si, vous vous moquez de moi, vous êtes enceinte. Je lui dis, non, c'est pas possible. Bon, il insistait un petit peu, sauf que là, il y a mon compagnon qui a commencé à s'énerver, qui lui a dit, bon, elle vous dit qu'elle y est pas, il y a un moment, c'est bon. Et il a dit, bon, il n'y a plus le choix, faut appeler les urgences. Je vous emmène en ambulance, on part aux urgences, qui étaient tout près, en plus. On part aux urgences, je ne sais pas ce que vous avez.
Et toi, tes douleurs, là, c'était par période, comme les contractions, ou c'était plutôt constant?
Mais c'était plutôt... Enfin, il y avait une espèce de douleur constante et des pics,
ouais.
Comme les contractions. Maintenant, je sais ce que c'est.
Ouais.
Mais il y avait quand même une espèce de douleur constante et c'était dans le dos. C'était... ça me prenait vraiment tout le long de la colonne vertébrale, les reins, le bassin, jusque dans les fesses. C'était vraiment dans le dos. Donc, pour moi, c'était... Enfin, je pensais pas que des contractions pouvaient ressembler à ça. C'était vraiment pas possible. Et donc là, les urgences, les ambulanciers sont arrivés pour me transporter aux urgences. Et en fait, au moment de me mettre dans... Je me souviens, c'était... Les escaliers étaient assez larges, mais l'ascenseur était trop petit. Donc ils m'ont mis sur une espèce de chaise. J'habitais au quatrième. Sur une espèce de chaise pour me transporter. J'étais en chemise de nuit, j'avais pas de culotte, j'avais rien. Et ils m'ont mis sur la chaise, et là, j'ai fissuré la poche des os.
Et là, tu te dis quoi?
Moi, je me dis rien, il y avait du sang. Donc je me suis dit... En plus, je devais avoir mes règles le jour d'après ou deux jours après, je sais plus. Mais je me suis dit, ah bah c'est rien, j'ai mes règles. Et là, l'ambulancier me regarde. Je me souviendrai toujours de son regard. Il me regarde et il me fait, non, madame, vous êtes en train d'accoucher. Vous allez avoir un bébé. Et là, je crois que j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Ils m'ont rallongée. Et là, ils m'ont ausculté.
Donc dans le camion, là?
Non, on était encore en haut, en fait. J'ai perdu les os dans mon appartement. On était encore dans mon appart. Et il m'ausculte et il regarde. Et donc là, le médecin de garde, il me dit, bah, j'avais raison. C'était le moment de me dire ça. Et il m'ausculte, il regarde et il fait, bah, on est à 10, là. Bon, moi, je savais pas du tout ce que ça voulait dire, hein, à ce moment-là. On est à 10. J'ai bon, bah on est à 10, ok. Et il me fait, bah en fait, la tête du bébé arrive. Et là, juste avant, ils avaient fait sortir mon compagnon. Et moi, la seule chose que je voulais, c'était, mais il s'appelle Thomas. Et je disais, mais je veux que Thomas soit là.
Oui. Lui, il était au courant déjà ou pas?
Non, il l'avait pas mis au courant. Donc le gentil médecin, celui que... c'est le seul dont je me souviens sa tête... Et le gentil médecin m'a pris la main, il me caressait la main et il me disait « On s'occupe de vous, tout va bien se passer, je vais lui dire, on ne s'inquiète pas. » Et donc il est allé voir mon mari, à l'extérieur de l'appartement, qui était en panique, et il lui a expliqué. Pour lui, je pense que ce n'était pas encore concret. Il avait encore un peu du mal à croire, le médecin. Ils ont appelé donc une deuxième ambulance avec... Il y a une maternité qui était pas loin, donc ils ont fait venir des femmes, des médecins de la néonate. Et elles sont arrivées et je me souviendrai toujours de la femme, la médecin plus âgée, qui m'a auscultée, qui a regardé. Et là, elle s'est retournée, elle a parlé aux ambulanciers, elle a dit « Si on n'est pas dans 2 minutes à la maternité, on accouche sur place. » Donc là, c'était branle-bas de combat. Le gentil ambulancier avec mon mari, ils ont préparé mon sac à main avec des affaires et tout ça. Et mon mari est monté avec dans la voiture de l'ambulancier. Et moi, je suis montée dans une autre ambulance. Et il m'avait couchée. Et il a fallu 2 minutes hein, pour aller à la maternité. J'étais vraiment tout près. Mmh. Et il était donc 4h30, un peu avant 5h du matin.
Est-ce qu'à ce moment-là, quand on t'annonce que tu vas avoir un bébé, t'as le temps, toi, de réfléchir à quoi que ce soit ?
Non. À ce moment-là, j'étais plus dans mon corps. C'était vraiment... à partir de ce moment, c'était comme si moi, je pouvais plus bouger et plus agir. C'était... mon corps, il faisait tout seul. Et les gens autour de moi faisaient des choses. Aujourd'hui, j'ai des souvenirs. Aujourd'hui, j'ai des... Voilà, des images. Mais au moment-là, il n'y avait plus rien. J'ai mis du temps à me souvenir de cette période... De quand je suis rentrée dans l'ambulance et que je suis ressortie, j'avais mon ventre qui avait... Mon bébé qui avait pris toute sa place, mon ventre qui avait vraiment... qui était apparu, un ventre de femme enceinte. Et j'ai mis du temps à m'en souvenir, mais je m'en suis souvenue après. Mais j'étais plus... J'étais hors de moi. C'était... Vraiment, c'est un sentiment très spécial. Et il y a tout le monde qui s'active.
Et quand t'as vu ton ventre, justement, sortir d'un coup?
Ça m'a pas... J'ai pas encore réalisé.
Ouais, t'es sous le choc de tout, en fait.
Sous le choc de tout. J'ai vraiment mis du temps à réaliser ce qui s'était passé, parce que au final, je suis rentrée à... Ça a mis du temps. Je suis restée un petit... Enfin, dans ma tête, ça a mis du temps, mais au final, c'est quelques minutes. J'étais dans le couloir des urgences de la maternité, et il y avait tout le monde autour, et d'un coup, j'ai vu Thomas arriver près de moi. Il était tout perdu aussi. Enfin, on avait l'impression d'être deux enfants au milieu de plein de monde. Et là, il y a une obstétricienne qui est arrivée. Ils m'ont emportée dans une salle d'accouchement. Et elle m'a dit, mais c'est pas possible, vous le saviez. Je lui dis, mais je savais quoi? Enfin, j'étais vraiment... Elle me dit, alors ils ont commencé à me déshabiller. Et il était 5h10. Ils m'ont posé un monitoring. Et là, l'obstétricienne s'est mise en face de moi. Ils m'ont installée. Et la sage-femme m'a dit, bah maintenant, faut pousser. Je dis, faut quoi? Je sais pas ce qu'il faut faire. Donc, elle a essayé de m'expliquer tout ça. J'ai fait tant bien que mal. Et là, ils ont commencé à devenir un peu inquiets. Le cœur du bébé s'accélérait un peu pour rien. Donc, au final, j'étais en travail depuis minuit. Et là, il était 5h, donc c'est pas énorme, mais apparemment le bébé il supportait plus. Donc là, ça a été. L'obstétricienne a appelé pour qu'on lui amène des forceps et la ventouse. Elle a utilisé la ventouse. Donc elle m'avait dit, je me souviendrai toujours, elle m'a dit promis, ça fait pas mal, mais j'ai hurlé tellement ça faisait mal.
Ah oui, c'est péridurale, rien.
J'avais pas de péridurale, et puis.
Et
je pense que, non, et puis je pense qu'elle s'inquiétait et puis elle n'a pas trop pris de temps pour faire les choses correctement.
Mais tu me disais justement qu'il y avait un monde fou dans la salle.
Alors oui, au moment où ils ont commencé à me déshabiller, d'un coup il y a la sage-femme qui vient me voir et qui me fait « Les ambulanciers peuvent rester, ils veulent savoir comment ça se passe. » Mais moi, apparemment j'ai dit oui.
Ouais.
Mais j'étais vraiment pas dans mon état normal, quoi. Donc, au final, il y avait tous les ambulanciers qui étaient restés. Ils étaient 6. Plus 2 sages-femmes. Il y avait une puéricultrice. Et il y avait 2 obstétriciennes et mon mari. Et moi. Donc, avec moi, ça faisait 13. On était 13 dans la salle d'accouchement, qui est toute petite. Elle devait faire 12 mètres carrés. Et donc j'ai ce souvenir de au moment des poussées de me voir, d'être en dehors de mon corps et de me voir pousser et avec tout le monde autour. Et il faisait une chaleur, enfin c'est vraiment un espèce de souvenir traumatique de tout ce monde, des cris, ça parlait fort, c'était...
Oui, ils n'ont pas pris soin de ton déni de grossesse. Et ben,
Non, parce que de toute façon, l'obstétricienne, pour elle, c'était... J'avais menti quand je suis arrivée et que j'ai dit que je ne savais pas. Pour elle, j'avais menti. Donc, Ils sont pas vraiment...
Ils ont pas pris soin de toi.
Non, il y avait la sage-femme qui était à ma gauche, il y avait mon compagnon qui était à ma droite. Alors lui, il me tenait la main, je me souviens, il avait chaud, il avait même pas pris la peine d'enlever son manteau. Et puis la sage-femme qui me caressait la main et qui me disait, c'est bon, je suis là. Et c'est vraiment, c'était ma référente. Je me suis référée à elle, elle m'a montré, j'ai essayé de faire comme elle me disait. Et donc, à une demi-heure plus tard, il y a Lucas qui est né. Et ils m'ont posé Lucas sur moi.
Et alors ?
Rien. Oui. C'est vraiment une sensation de vide. Et je me souviendrai, alors c'est drôle aujourd'hui, mais à l'époque, je me souviens avoir dit, il n'y en a pas un deuxième. Hein. C'était vraiment... Pour moi, c'était pas mon bébé, c'était pas à moi. On me l'a posé. Déjà, pour le faire sortir, il a fallu m'appuyer sur le ventre. C'était pas... L'obstétricienne, elle m'a fait une épisio sans péridurale au-dessus d'une déchirure. Donc, c'était... C'est hyper douloureux. C'est vraiment hyper douloureux. Et donc, moi, je pensais juste à la douleur à ce moment-là. C'était pas... Voilà. C'était un... Par contre, j'ai tourné la tête vers mon compagnon. Et là, je l'ai vu. Il y avait les larmes qui coulaient. Et il disait, il est trop beau, il est trop beau. C'est là que j'ai compris que c'était un petit garçon. Voilà, et c'était là j'ai commencé à pleurer aussi. Mais très vite, la sage-femme, ma référente, elle a pris le bébé, elle a compris que c'était pas le moment. Et ils ont coupé le cordon, ils sont partis avec le bébé faire des soins. Et donc là, ils nous ont laissés tous les deux.
Passe de 13 personnes à tous les deux.
À tout seul. Et la sage-femme est très vite revenue. Et elle m'a parlé. Elle m'a dit... vous savez, il va falloir commencer à en parler. Elle m'a dit, je serai de vous, j'appellerai vos parents. Ça vous ferait du bien. Elle m'a dit, parce que moi, je me mets à la place de votre maman, parce qu'elle avait un enfant de notre âge, qui s'appelait Lucas. Mmh. Et elle m'a dit, je me mets à la place de votre maman, faut l'appeler, elle doit sentir quelque chose, elle va s'inquiéter. Alors, je ne l'ai pas écoutée. Je l'ai pas appelé ma maman tout de suite parce que vraiment pour moi c'était pas réel. J'étais encore dans un cauchemar. C'était vraiment un moment très spécial parce que à côté de ça, mon mari qui est très, ça y est pour lui, il avait un bébé. Et pourtant sur le coup il y avait plus rien d'autre qui existait. Et lui qui était en prépa, il allait passer des concours, rentrer en école d'ingénieur. Moi, j'avais pas encore passé mon BTS. Mais tout ça, là, ça, sur le moment, là, ça n'existait plus. Lui, il a pris son téléphone, il était appelé sa maman. Mais il lui a dit, c'est bon, t'es assise. Mais je suis papa. Elle lui fait, tu vas être papa ? Non, non, je suis papa. Et il avait joué un petit peu là-dessus avec son papa qui était en déplacement en Italie et il n'arrivait pas à le joindre. Il lui a envoyé un message en lui disant « Je suis papa ». Pareil, c'était un peu, voilà. Lui, il a tout de suite prévenu sa famille, mais moi, j'avais vraiment... c'était un peu comme l'espoir de me dire « Je vais me réveiller, je vais ouvrir les yeux » et tout ça, c'est qu'un mauvais rêve et que, voilà. Puis bon, vers...
Là, vous avez 19 ans tous les deux.
On a 19 ans tous les deux. Non, mon mari, il avait déjà 20. Il avait déjà 20. Il avait déjà 20 ans. Et moi, j'allais avoir 20 ans 5 jours après. Donc là, on est le 10 avril 2015. Et quelques heures après, on nous amène le bébé. La sage-femme l'avait habillé. Elle a dit, j'ai trouvé... des petits habits que moi et mes collègues on tricote pour les bébés. Elle a dit, donc on vous donne tout ça. Elle a amené le bébé. Et là, elle m'a dit, est-ce que vous voulez l'allaiter ? Mais moi, je sais pas. C'est très bizarre. J'ai dit oui. Et là, on me l'a mis au sein. J'ai compris que c'était vrai. C'est pas pour ça que j'ai accepté, c'est pas pour ça que je l'ai aimé, Mais j'ai compris que c'était vrai, que c'était un bébé et que j'avais vraiment accouché d'un bébé. Donc là, j'ai mis un peu plus de temps à appeler ma famille.
Donc là, t'étais retournée en chambre
Je suis retournée en chambre. J'ai appelé mon frère, avec qui j'ai 20 ans d'écart. Et je lui ai dit, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, mais moi, je ne peux pas. Je m'en sentais pas capable. Ma maman est quelqu'un de très sensible. J'étais la petite dernière. J'étais encore son bébé. Et là, j'ai accouché. Je lui avais rien dit. Je sentais qu'elle allait pleurer au téléphone. Je sentais... Et c'était... Moi, je n'en étais pas capable. Là, au moment-là, c'était vraiment de la protection. Pour moi, c'était... Fallait absolument que je me protège. J'avais... C'était vraiment trop intense, mes propres sentiments. J'ai dit, s'il faut en plus que je gère les sentiments des autres, ça va pas le faire. Donc mon frère, il s'est débrouillé, il a prévenu mes parents. Et il est tout de suite, il est arrivé. Il m'a dit, je passe au magasin et j'arrive. Et il est arrivé, il avait un gros sac de courses. Et il avait acheté des vêtements, des biberons.
Ah,
des...
génial, il a attiré.
Plein de trucs. Et puis mon mari, lui, entre-temps, était reparti rechercher mes lunettes. Parce que, alors, je suis myope, je vois rien. Et on avait oublié mes lunettes. Mais moi, c'était dramatique au moment-là. S'il me fallait mes lunettes, c'est vraiment, j'avais plus aucune notion de rien. Il me fallait mes lunettes. Donc mon mari est reparti chercher mes lunettes. Et il me les a ramenées. Et après, il est reparti chercher sa mère. Ils sont passés aussi en course.
Du coup, à ce moment-là, tu te retrouves toute seule avec ton bébé.
C'est ça.
Comment ça se passe pour toi ?
Mais il y avait cette espèce de... Je pense que c'était les hormones. Il y avait cette espèce de... d'euphorie. Il y avait un bébé. Il était beau. Mais vraiment, il était magnifique. Et on avait réussi tant bien que mal à lui trouver un prénom. Et on a mis 3 heures pour ça. Quand on était tout seul, pendant que Lucas était en soins... On s'est dit, bah, va falloir qu'on l'appelle d'une certaine façon. Et on a cherché. Et c'était Lucas. C'était un beau prénom, c'était classique. Et comment ? C'était en plus le prénom du fils de la sage-femme. Donc voilà, au final, ça a été simple. Ça a été rapide. Coup de cœur pour tous les deux, Lucas. Donc là, une fois que je me retrouve toute seule avec Lucas, parce qu'il dormait. Il ne faisait que dormir. Il était dans son berceau, il était beau et je le regardais. Puis j'ai commencé à prendre des photos. Enfin, comme une, entre guillemets, une vraie maman. J'étais une vraie maman, mais sur le coup, je ne le savais pas. J'ai commencé à le prendre en photo, à le regarder, à lui sourire, à lui parler. Mais c'était encore assez flou. C'était, pour le moment, c'était... C'était comme si c'était par exemple le bébé de ma sœur que j'allais voir à la maternité.
Ouais.
C'était pas encore mon bébé.
Et l'allaitement, comment ça s'était passé d'ailleurs ? C'est le moment où t'as connecté, t'as réalisé qu'il y avait un bébé en tout cas.
Voilà, et qu'il fallait que je m'en occupe.
Et physiquement, comment s'est passé l'allaitement pour toi ?
Oh, bah, par contre, il a attrapé le sein et il s'est mis à téter. C'était l'allaitement le plus simple au monde. Hein. Ça, on peut pas... Donc ça a facilité les choses. Et c'est quand on me l'a mis au sein, dans ma tête, il y a une espèce de connexion qui s'est faite en me disant « On m'a confié ce bébé, il faut que je m'en occupe, il faut que je sois à la hauteur. » Là, il y a eu une espèce de pression. C'était vraiment... maintenant, il faut que tu assumes et que tu sois à la hauteur. Tu peux pas te permettre de faire les choses mal. Et il faut que... tu sois parfaite. Enfin, il y a une espèce, vraiment cette pression que j'ai ressentie très longtemps vis-à-vis de ça. Et c'est donc la connexion était faite, mais d'un côté, c'était pas facile non plus. C'était pas l'amour n'était pas là. C'était vraiment que du concret. Il faut le nourrir, le changer, l'habiller, l'endormir, le nourrir, le changer, l'habiller, l'endormir. C'était vraiment que ça. Mais ça a mis vraiment beaucoup de temps pour que j'accepte que ce soit mon enfant et qu'après j'apprenne à l'aimer.
Ouais.
Parce que j'ai pas eu ces 9 mois où dans le ventre, parce qu'on a beau dire, il y a des femmes qui ne ressentent pas cette espèce de connexion, mais il y a quand même une connexion. L'enfant, il est là, il est dans notre ventre. Pour nous, en tant que femmes, c'est concret. Et là, moi, j'ai pas eu ça. Moi, il est directement sorti. Enfin, je veux dire, c'est comme si j'avais été enceinte pendant une heure. Enfin, c'était vraiment... Il est sorti, on me l'a posé, et c'est tout. J'ai pas cette preuve que c'était bien à moi. Donc, ça a mis beaucoup de temps. J'ai vu une psychologue à la maternité qui m'a dit, si vous voulez, on peut se voir. Mais c'est tout. Sans plus. Ils m'ont gardé 5 jours à la maternité. Et puis, après, je suis ressortie. Et quand je suis sortie, j'avais vraiment... Il y avait toujours le fil conducteur, c'était la pression que je me mettais. Je suis rentrée chez mes parents parce que l'appartement était trop petit, trop humide et tout pour un bébé. Enfin, c'était pas possible.
Comment ils ont réagi, tes parents ?
Alors, mon père, il y a eu ce mélange de... je suis très fière, je suis grand-père pour la 3e fois. C'était la 3e fois pour mes parents. Et puis, ce mélange de... qu'est-ce que t'as fait comme bêtise, ma fille ? Mais c'est très vite passé, celui-là. Il est vraiment... Il a été fier, il a... Comment ? Il a préparé ma chambre, il lui a préparé un lit. C'était vraiment... Il s'est tout occupé. Il était m'acheter un siège auto, une poussette. C'était vraiment assez dingue. Pour ma mère, c'était très difficile. Très, très, très difficile. Et c'est pas qu'elle m'en voulait, mais il y avait... Au début, si, c'était... le déni de grossesse, on connaissait pas. Enfin, je veux dire, moi, il a fallu que la psychologue à J3, elle vienne me voir pour me dire, bah voilà, c'est ça un déni de grossesse. Et mais pour ma maman, je l'avais trahi. Elle me dit, mais pourquoi tu me l'as pas dit ? Et je lui dis, mais maman, si je l'avais su, c'était toi la première à qui je l'aurais dit. C'était pas possible autrement. Et ça a mis du temps avec ma maman, mais. Elle s'est occupée de moi, comme une maman. Voilà. Et puis, elle voulait aussi... Il y a un espèce de lien qui s'est créé entre elle et Lucas. Et elle s'est occupée beaucoup de Lucas. Mais moi, c'était quelque chose que je voulais pas permettre. C'était toujours la pression de « c'est mon enfant, on me l'a confié, il faut que je m'en occupe ». Mais ça n'a pas tenu longtemps. Il y a un moment, la dépression postpartum.
Et t'as fait une dépression de postpartum ?
Oui. Je me suis rendu compte que c'était mon enfant, mais que je l'aimais pas. Et c'est horrible d'avoir cette sensation de se dire... T'as un bébé, il est beau, il est gentil, mais tu l'aimes pas. C'était pas de l'amour, c'était je l'allaitais parce qu'il fallait qu'il mange, c'était vraiment que du, je sais pas comment on dit,
des automatismes.
Voilà. Et donc c'est là que, entre temps, on s'est mariés.
Au bout de combien de temps vous êtes mariés ?
On s'est mariés au mois d'août, donc 4 mois après. Okay. Lucas avait 4 mois. Donc là j'étais. J'étais toujours dans ces automatismes. Et puis je pensais à mon BTS que j'ai passé avec Lucas qui avait 2 mois. Je pensais à notre mariage qui était prévu. J'ai tout organisé toute seule et on s'est mariés. Et après notre mariage, on s'est retrouvés. Mon mari, au mois de septembre, il a repris les cours. Et là, ça a été c'était l'effondrement. C'est là que tout est remonté, tout est apparu. J'ai compris donc justement que j'avais un bébé mais que je l'aimais pas. J'ai compris que j'étais pas bien avec mon histoire, que ça me plaisait pas. C'était pas comme ça que j'aurais voulu rentrer dans la maternité. Et là, j'ai pris rendez-vous chez une psychologue qui m'a pris en charge. Et qui m'a dit, vous faites bien de venir maintenant, parce que là, j'étais à un niveau de dépression qui était assez grave.
Ouais.
Et elle m'a tout de suite mis sous antidépresseur. Et on prenait rendez-vous, j'avais 2 rendez-vous par semaine. Mmh. Et il a fallu tout ça pour que je prenne conscience que je pouvais créer moi-même un lien avec ce bébé. Mais en attendant, pendant 6 mois, c'est 6 mois où j'ai pas aimé mon bébé. Et c'est le plus dur.
Tu culpabilises.
J'ai culpabilisé longtemps.
Aujourd'hui, non, il a 5 ans et demi, il a plein d'amour, il a... Voilà, c'est un petit garçon heureux, épanoui, je sais très bien qu'il n'a pas manqué de... Mais sur le coup, je me suis dit, mais en fait, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, tu changes ta couche, mais t'es une mauvaise mère, parce que tu l'aimes pas. Et donc, en plus du traumatisme de l'accouchement, je faisais des cauchemars toutes les nuits, en plus de ça, il y avait le manque d'amour maternel que je donnais. Enfin, que je donnais pas. Et là, ça a été une longue bataille pour me sortir de ça, avoir les clés pour apprendre à aimer un enfant, et apprendre à me sortir du traumatisme. Et j'ai fait 2 ans et demi de thérapie. Pour ça. Et au final, à peu près à la période de Noël 2015, Lucas avait donc un peu moins de 9 mois. Et c'était le déclic. Un jour, je me suis levée un matin, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit « je t'aime ». Et c'était... Ben, je me suis dit « écoute, Clara, si t'as fallu 9 mois pour faire ça, c'est que les 9 mois de grossesse, ils sont utiles.
Oui. »
Et après, là, dans ma tête, ça a été mieux. Ma thérapie commençait. Mon autothérapie, je vais dire, ça commençait à me dire « Mais tu peux aller mieux. Maintenant, ça y est. Tu sais que t'aimes ton bébé. Donc, ça peut que aller mieux. » Et j'ai continué ma thérapie, bien sûr, avec la psychologue, parce que je faisais toujours des cauchemars du fameux accouchement. J'ai dû faire 10 tests de grossesse en 9 mois, tellement je psychotais. J'avais l'impression que j'allais retomber enceinte et que j'allais de nouveau ne pas le savoir et que j'allais de nouveau vivre ça. Et c'était vraiment pas le fait d'avoir un autre enfant, c'était le fait de pas le savoir, de pas gérer. Et il a fallu que j'apprenne que je pouvais pas tout gérer. Et ça, c'était compliqué.
Ouais. J'ai pas le contrôle sur tout.
Non, j'ai pas le contrôle sur tout et j'ai pas le contrôle sur un bébé et je peux pas savoir tout ce qui va se passer. Et ça a fait partie aussi de cette thérapie. Mais au moins, l'histoire de j'aime mon bébé, c'était fait. Donc je me sentais mieux.
Est-ce que tu as pu échanger avec d'autres femmes à qui c'est arrivé ?
Ouais, oui. J'ai plus rencontré des femmes qui ont fait des dénis partiels. Donc, il n'y a pas cet état de accouchement traumatique, parce que quand on fait un déni partiel...
Oui, il y a une préparation.
Il y a une espèce de préparation. Les femmes, même quand on l'apprend en 8 mois, on a toujours un mois pour se dire « je vais accoucher d'un bébé, c'est le mien ». J'ai rencontré des femmes qui ont fait des dénis de grossesse alors qu'elles avaient déjà des enfants. Elle, justement, j'ai rencontré une femme, elle avait fait un déni de grossesse, c'était son 3e, et elle l'a su à 8 mois. Elle n'avait pas de ventre, rien, et un jour, elle n'était pas bien, elle va voir le gynécologue, il lui fait une échographie, il lui fait « bon, bah voilà, vous êtes enceinte de 8 mois ». Donc on a beaucoup parlé, et puis le fait qu'on nous impose, la nature m'a imposé un truc en fait, c'est difficile à accepter, de se dire « moi, j'ai pas choisi, c'était pas le moment, j'avais 19 ans ». On va pas se mentir. Enfin, voilà, Lucas, aujourd'hui, il a 5 ans et demi, mais on a galéré longtemps. Donc, il y a tellement de choses à accepter autour d'une grossesse. On peut pas s'en sortir tout seul. C'est pas possible. Il y a trop de choses à prendre en compte. Et puis, il y a le fait aussi que autour de soi, il y a le monde qui s'écroule pour nous. Et il y a aussi le monde qui s'écroule pour les autres. J'ai perdu des amis, moi, à cause du déni de grossesse.
Ah oui.
On dit souvent que quand c'est quelque chose d'important qui nous arrive, on reconnaît tout de suite ses vrais amis. Mais j'ai des amis qui m'ont dit « mais tu m'as menti, tu m'as caché, ça n'existe pas le déni de grossesse ». Il y a encore des gens qui n'y croient pas. On fait le tri autour de soi, hein. C'est impressionnant. Il y a ma mère a perdu des amis parce que des amis lui ont dit « mais c'est pas vrai, elle t'a menti ». Et en fait, c'est horrible. Il y a des gens qui culpabilisent pour soi-même. De se dire, on le savait pas. Ça nous est tombé dessus. On n'a pas choisi. Mais en plus, si autour de nous, on n'a même pas de soutien, c'est pour ça qu'il faut se faire aider. C'est pour ça que moi, en 2019, j'ai voulu faire partir d'une partie d'une association pour aider les femmes qui vivent des dénis de grossesse, que ce soit un petit, entre guillemets, ou un gros. Un déni de grossesse, c'est un déni de grossesse. Il y a quand même trois femmes sur 1000 qui vivent des dénis de grossesse, donc c'est pas si peu courant que ça.
Ouais.
Ça arrive quand même assez souvent. Et on peut pas se dire, continuer à dire, non, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est trop difficile à vivre pour qu'autour de soi, on entende, non, ça n'existe pas.
Et alors, du coup, quelques années plus tard, vous décidez de faire un deuxième enfant ?
Alors oui, au final, quand Lucas est né, moi, alors déjà, une fois que cette thérapie de fait, vers les 3 ans de Lucas, je me suis découvert une passion pour la maternité. C'était...
Ouais. Parce que toi, du coup, t'as pas repris, t'as pas continué.
J'ai passé mon BTS.
Que tu as eu.
Que j'ai eu, et j'ai arrêté là. Et ensuite, j'ai suivi mon mari, qui lui est rentré dans une école d'ingénieur, mais qui était loin. Donc on a déménagé tous les trois. Moi je faisais des petits boulots par-ci par-là. Lucas, je l'ai mis en garde chez une nourrice. Et après, c'est très vite posé les questions de l'école. Et quand on a compris les capacités de Lucas, on s'est dit on va pas. Voilà, on n'avait pas envie de le mettre à l'école pour déménager tous les. On savait qu'on allait déménager prochainement. Et donc on a commencé à faire l'école à la maison. Et vers les 3 ans, et il y avait cette envie pour moi de compenser le manque de grossesse. Tout ce que j'avais pas fait, c'est un peu égoïste, faut le dire, mais tout ce que j'avais pas pu faire quand Lucas est né. Et puis, comme depuis toujours, on avait toujours dit que quand on aurait des enfants, on en aurait deux, et qu'on voulait pas non plus qu'ils aient 10 ans d'écart. Voilà. Donc, forcément, premier enfant jeune, à presque 20 ans. Le deuxième, il fallait le faire assez rapidement. On a attendu d'être stable financièrement. Mmh. Et on a fait projet bébé en 2019. J'ai dit à mon mari, pour moi, c'est le moment. Est-ce que pour toi, c'est le moment? Il m'a dit, c'est parti. Et j'ai eu de la chance, je suis tombée enceinte très vite. Et là, ça a été une découverte.
Ouais.
Je dis toujours, c'est ma première grossesse. Ouais. C'était vraiment, c'est ma première et unique grossesse. Et alors, ça n'a pas été une grossesse de rêve du tout. Donc, j'ai un utérus contractile, donc j'ai eu des contractions pendant toute ma grossesse. J'ai perdu 6 kilos pendant ma grossesse. J'ai été malade tout le long de ma grossesse. Mais il y a eu on peut pas dire que j'ai aimé être enceinte, Mais...
Moi, tu le savais.
Je le savais. Mmh. J'ai géré. Au début, je devenais même un peu psychopathe. Mon mari m'avait dit, arrête. Je préparais tout. Je faisais des listes. Je voulais tout acheter d'avance. Je devenais folle. Il y avait une espèce d'euphorie comme ça. Et puis, le soir, je me posais. Et puis, je me dis, mais j'ai un bébé dans mon ventre. Et je le sais.
Mmh.
Et je vais bientôt accoucher. Et... Il y avait cette espèce de magie et puis de fait aussi, on a beaucoup fait participer Lucas aux échographies. Il était tout fou, lui, il en voudrait 10, des petits frères et des petites sœurs. Donc il était très content et on a vécu un truc à 3. Et pourtant c'était ma première grossesse, mais on l'a vécu à 3 et c'était assez magique. Et c'est pareil pour l'accouchement en plein confinement. L'année dernière. Donc, j'ai eu de la chance, mon mari a pu pouvoir assister. Et c'est accouchement très rapide, sans péridurale. Voilà, accouchement parfait, on peut le dire.
C'est toi qui avais choisi de ne pas faire péridurale ?
Oui, je m'étais dit, le premier, j'ai pas eu le temps de le faire, la péridurale, j'ai survécu.
Ouais.
Voilà, mais pourquoi pas le deuxième ? Et au final, c'est assez drôle parce que c'était vraiment mon projet, ça me tenait à cœur. Et quand Eva est née, j'étais en pleine contraction, j'ai hurlé « mais je veux la péridurale !» Et la sage-femme, elle arrive, elle me dit « si vous la voulez, c'est que vous êtes en train, c'est que bébé arrive !» Et effectivement, Eva allait naître. Donc pas besoin de péridurale, on a fait ça comme ça. Mais c'était vraiment une renaissance. Eva était là, on était quatre, je savais... Enfin, ce que ça voulait dire, le coup de foot quand on pose bébé sur soi. Et aujourd'hui, bah, je me sens complète, parce que je me sens complète avec mon histoire. Je sais ce... J'ai la chance de savoir ce que c'est un vrai accouchement, une vraie grossesse. Mais j'ai aussi... le déni de grossesse, ça a beaucoup forgé mon caractère. Je sais maintenant qu'il faut plus s'occuper de ce que les autres pensent. Mmh. Et qu'il faut penser à soi et qu'il faut prendre soin de soi et de sa santé mentale. Et voilà, maintenant on est quatre et on est complet. Et même avec un déni de grossesse, bah, la vie est belle, quoi.
Et du coup, toi, t'as pas poursuivi tes études, t'as pas travaillé donc, depuis l'arrivée de Lucas.
Non, parce qu'on est toujours en école à la maison d'ailleurs.
Et oui, et 5 ans et demi. Donc en fait, t'es à 100% dans ta maternité finalement.
J'ai changé de cap du tout au tout. Moi qui ne voulais pas, je voulais continuer mes études, je voulais pas forcément avoir des enfants maintenant, quand Lucas est né, et maintenant, bah, je me verrais plus faire autrement.
Ouais.
Ça fait vraiment partie de mon équilibre et de notre équilibre familial. C'est pas facile, hein. Je passe ma journée avec les enfants, je fais l'école à Lucas. Mais je me verrais pas faire autre chose. Pas dans un bureau, pas ailleurs. C'est ma vie, c'est mes enfants. Quoi.
Et tu me disais que tu allais aussi te spécialiser justement dans tout l'accompagnement.
Oui, j'aimerais bien faire de l'accompagnement parental. Donc, je suis en train de préparer ça en secret. C'est parce qu'au final, chaque maternité est différente, chaque histoire est différente, et que je pense que on n'est pas obligé de vivre ça tout seul dans son coin, juste avec des médecins, et que même quand on ne vit pas un déni de grossesse, parfois, voilà, on a besoin de conseils, on a besoin d'avoir une oreille complètement neutre, et justement de ne pas avoir ses amis qui disent... C'est pas vrai. J'ai tellement vécu pour ça, et même pour Eva, voilà, quand je voulais allaiter, y en a qui m'ont dit « Hein, mais c'est pas sain !» Ou quand j'ai donné le biberon à Lucas, on m'a dit « Mais tu devrais pas !» Et j'aimerais bien pouvoir mettre au service tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais maintenant, parce que je me suis tellement renseignée sur la maternité, sur la parentalité en général, que j'aimerais bien mettre ça au service des femmes qui sont un peu perdues, et... des couples et des parents qui veulent vivre une maternité, une parentalité de façon sereine. Mmh. Donc je vais bientôt ouvrir mon entreprise normalement.
Est-ce qu'il y a des femmes, toi, qui te contactent encore aujourd'hui au sujet du déni de grossesse ?
Oui, comme sur mon compte Instagram, c'est quelque chose dont j'ai parlé, et comme j'étais passée à la maison des maternelles, il y a des femmes qui arrivent à me retrouver. Et qui me disent, moi aussi, j'ai vécu un déni de grossesse. Il y en a une, c'était, elle avait fait un déni de grossesse partiel. Elle l'a appris à 6 mois. Elle me dit, mais moi, j'ai eu le temps de me préparer. Et souvent, je suis obligée de dire, mais il n'y a pas de... Enfin, un déni de grossesse, c'est sûr qu'entre un déni de grossesse partiel et un déni de grossesse totale, c'est différent, c'est forcément plus dur parce qu'on n'a vraiment pas le temps. On est en train d'accoucher, donc on a la gestion psychologique et la gestion de la douleur, c'est assez compliqué. Mais c'est pas pour ça qu'il faut moins parler du déni partiel, c'est tout aussi difficile, chaque femme a son histoire. Et on entend, à la télé, souvent on entend parler de déni de grossesse avec des infanticides. Mais au final... C'est vraiment hyper rare. Et souvent, ça se passe bien. Donc, j'aimerais bien qu'on arrête de parler des dénis de grossesse en parlant de ce genre d'horreur et qu'on parle plutôt des mamans chez qui, comme moi, et ben, au final, on est heureuse avec un enfant et que même si on a mis du temps, ça se passe bien et que c'est des enfants qui sont épanouis et qui sont autant heureux que d'autres enfants oui. Qui ont été désirés, quoi.
Toi, tu vas lui raconter, tu lui racontes déjà à Lucas toute son histoire.
Oui, ça fait partie de son histoire. On l'a appelé le bébé surprise. On lui a toujours expliqué qu'on ne savait pas qu'il était dans mon ventre et qu'un jour, maman, elle avait un peu mal au ventre et qu'en fait, elle était en train d'accoucher. Et que quand il est sorti, n'en voulait pas, mais que c'était comme s'il faisait partie de notre famille tout de suite. Ça a toujours été, c'est puisque mon mari était heureux, puisque même si moi j'ai mis du temps à l'accepter, je m'en suis toujours tout de suite occupée, emparée, c'était vraiment mon précieux. Mmh. Et ça, il le sait, et puis on en a beaucoup reparlé lors de ma deuxième grossesse, quand j'étais enceinte d'Eva, donc on lui a dit, tu vois, aujourd'hui on a la chance de voir à l'échographie, on voit le bébé qu'il y a dans le ventre, mais toi, on n'a jamais fait ça. Et ça le fait toujours rigoler, un petit air coquin, me disant, oui, moi j'étais cachée, et tout ça. Et ça fait vraiment, c'est pas quelque chose de tabou, c'est même quelque chose qu'on trouve important d'en parler, parce que, c'est son histoire, même si c'est une histoire dont il ne se souvient pas, ça fait partie de son histoire. Et nous, ça nous permet aussi d'en pouvoir en parler librement. Là, il est dans sa chambre, il nous entend sûrement parce qu'il entend tout, il retient tout. Et ce n'est pas quelque chose qui va le choquer parce que c'est une histoire qu'il connaît. Donc, c'est quelque chose de naturel. Il sait que des fois, on peut ne pas savoir qu'il y a un bébé dans le ventre de la maman. Mais que c'est pas pour ça que ça se passe mal.
Et au niveau du couple, vous avez l'air d'être très soudés depuis tout le début. Est-ce que il y a eu tu disais que le papa, lui, il avait accueilli le bébé assez rapidement et compris.
Alors sur le coup, lui, ça a été vraiment très simple. C'est après, ça a un peu désenchanté. Quand on a atterri et quand on s'est dit, y a ces concours de prépa qui arrivent bientôt, c'est dur, déjà en temps normal. Mais alors en plus, avec un bébé, avec ce chamboulement qui est arrivé d'un coup, c'est très difficile. Et donc au final, il a décidé de refaire une année de prépa pour refaire des concours l'année d'après, pour les faire au calme et posé, et pas avec toute cette histoire, parce que franchement, c'était assez difficile. Mais au final, tout de suite après, on a décidé de se marier, parce que pour moi, c'était hors de question que je porte pas le même nom que mon enfant. Voilà. C'était assez simple comme décision. On s'est regardé, on a dit on se marie, on a dit oui, hop, on a fait ça en un mois, on s'est marié.
Ça a pas mis en péril votre couple, en tout cas.
Non, pas du tout. On peut pas se cacher qu'on a eu des moments difficiles après, parce que forcément, quand on est étudiant, qu'on fait des petits boulots à droite à gauche, qu'on a un enfant, c'est difficile. Mais je pense que dans tous les cas, l'entrée dans la parentalité, elle est difficile pour tous les couples, et que ça peut être des chamboulements pour tous les couples, qu'on travaille ou qu'on travaille pas, qu'on soit étudiant ou qu'on soit pas étudiant. Donc, à notre échelle, ça a été difficile, mais je sais pas si c'était vraiment à cause de ça ou pas. Mais en tout cas, ça a jamais... Le fait que ça a été un déni, ça a jamais été ça qui a mis en péril notre couple. Ça a jamais été parce que je ne lui ai pas dit. Mmh. Il m'a jamais reproché. Il a tout de suite compris ce que c'était, ce qui s'était passé. Et c'est pas vis-à-vis du déni en lui-même. C'est plutôt l'entrée dans la parentalité. Dans tous les cas, c'est difficile.
Et est-ce que les médecins ont pu t'expliquer, justement, ton fils dit qu'il s'était caché, est-ce qu'ils expliquent un petit peu
Alors, les médecins, c'est encore... On a participé à une étude qui recense tous les cas de déni de grossesse en France. Et c'est pas... En fait, on ne sait pas encore pourquoi, mais les psychologues disent que si... c'était pas forcément parce qu'il y avait un manque de désir d'enfant. Il y a des femmes qui ont envie d'avoir des enfants et qui font des dénis de grossesse. Souvent, c'est parce que dans l'entourage, dans notre vie, il y a une case qui est pas cochée pour que l'arrivée du bébé se fasse et que ça se fasse bien. Et moi, je pense que c'était parce que on savait que si on l'avait appris avant, on se serait posé la question de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas ? Et ça, c'est... Moi, je trouve ça horrible de se poser la question. C'est mon avis personnel, mais je me serais sentie mal de me dire je porte la vie et j'hésite à la garder ou pas. Et je pense que moi, ce déni de grossesse, ça nous a évité tout cette espèce de cheminement de se dire on garde pas. Bah, on n'avait plus le choix, il est arrivé à terme. Donc, c'est comme ça. Les médecins disent que la raison est souvent psychologique. C'est le déni de grossesse, c'est fait pour se protéger ou protéger quelqu'un dans notre entourage. Notre cerveau, il dit stop. Il y a le bouton on-off, ça se met sur on. Le bébé, il se met le long de la colonne vertébrale. Donc, il n'y a pas forcément de ventre apparent. En fait, il peut y avoir des signaux, mais on les explique toujours de façon différente. Voilà. Moi, l'extrême fatigue, la prise de poids, les espèces de nausées, forcément, oui, que c'était lié à ma grossesse. Mais on a réussi à l'expliquer autrement. Et c'est ça le déni de grossesse. Et en fait, on sait. Il n'y a pas besoin d'avoir d'antécédents psychiatriques. La femme classique qui va avoir un déni de grossesse, c'est une femme entre guillemets normale. C'est une femme comme toutes les femmes peuvent être. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus, mais il n'y a jamais vraiment. Le cerveau, il est encore plein de ressources et il cache bien les choses. Voilà.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Mon caractère, déjà. Je suis devenue quelqu'un un peu plus patiente. Et puis, le fait de savoir qu'on ne peut pas tout gérer. Et de savoir aussi que, peu importe ce que disent les autres, ce qui compte, c'est ce que moi, je fais. Et le fait de toujours devoir se justifier... Après mon déni de grossesse, il y avait cette espèce de besoin de justification. Les autres en avaient besoin. Et puis moi, j'avais l'impression que c'était obligé... que je doive me justifier. Ben si, le déni de grossesse, ça existe. C'est ça. Et je m'épuisais dans des explications qui, au final, ben, ça ne regarde pas les autres. C'est ma vie. Et si les autres, ils n'y croient pas, ben, tant pis pour eux. Hein. Parce qu'aujourd'hui, en 2021, il y a encore beaucoup de personnes qui n'y croient pas, alors que c'est un fait qui est, comme je disais tout à l'heure, 3 femmes sur 1000, c'est pas rien. Donc ça m'a appris ça, et puis ça m'a montré à quel point j'aimais les enfants au final. Parce que je croyais que j'aimais pas ça avant. Alors c'était peut-être parce que c'était ceux des autres. Mais je m'aperçois que les enfants, ils sont pleins de ressources et que ça apporte tellement plus que n'importe quoi. Que, bah oui, c'est tout ce qui est au sujet de la maternité et de la parentalité, c'est une véritable passion. Au niveau du caractère, ça m'a fait grandir et mûrir, forcément. Quand t'as 19 ans, on devient parent, c'est... J'étais déjà plus mûre que mes copines quand elles me voient, elles me disent « Petit oncle, je sais pas comment tu fais », mais il y a un moment, bah, quand on a un enfant... On fait avec, et au final, ça devient naturel. C'est pas... Donc oui, j'ai un caractère assez bien trempé. Et je pense que c'est grâce à ça, et c'est ce qui me protège. C'est ce qui m'a protégée, c'est ce qui me protège encore aujourd'hui. Dans les choix qu'on fait, on a des choix des fois un peu marginaux, et le caractère que je me suis fait, ça m'aide bien.
Ouais. Et quel regard tu portes sur... Clara, il y a 5 ans, qui accouche comme ça.
Ah, si seulement je pouvais la voir, je dirais, mais t'inquiète pas. C'est juste... C'est un mauvais moment passé, parce que forcément, on peut pas dire que ça a été un bon moment. Ça a forcément été un mauvais moment. Mais c'est culpabilisant, d'ailleurs, de se dire... mon accouchement était un mauvais moment, alors que c'est la naissance d'un enfant. C'est censé être beau, censé être magique. Mais non. Mais aujourd'hui, je culpabilise plus. On se rattrape sur d'autres choses. Et puis, ouais, j'aimerais bien lui dire, c'est pas grave, t'aimes pas ton bébé, mais ça va venir. Et c'est pas forcément parce que t'as fait un déni de grossesse. Il y a des femmes, elles aiment pas leur bébé tout de suite. Et alors, enfin, c'est un petit être qui vient de nulle part. il faut apprendre à le connaître. Et puis, de lui dire aussi, j'aimerais bien lui dire à la Clara d'il y a 5 ans que prends la vie comme elle vient. Et puis, dans tous les cas, tu t'en fiches de ce que disent les autres. Et ton fils, ça va être le plus beau et le plus intelligent. Et il n'y a pas de raison à ce que toi, tu te sentes mal et que ta vie, elle va être que meilleure. Et que même si j'imaginais pas forcément ce que j'allais devenir, enfin, c'était pas ça que j'imaginais. Moi, je me voyais, designer automobile, voilà, avec une... Je suis pas forcément carriériste, mais c'était... Je me voyais avec une bonne carrière, mariée, peut-être en projet d'acheter une maison avec mon chéri. Pas du tout juste à me contenter de protéger ma famille et de passer du temps avec mes enfants. Et au final, moi, pour moi, maintenant, il n'y a plus que ça qui compte.
Et puis, t'as 25 ans. Tout est encore possible.
Et voilà. Et puis, j'aimerais lui dire, t'inquiète pas, un autre jour, tu seras enceinte et puis t'en profiteras. Parce que c'était ça aussi, le fait de voir des autres femmes et puis d'être jalouse, parce que moi, j'ai pas eu ça. C'est un sentiment très spécial. Et au final, bah, j'ai eu le droit aussi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman parisienne?
C'est être une maman qui aime bien bouger. Et faut pas avoir peur de sortir et de faire sortir ses enfants et d'aller voir le monde autour. Et c'est l'avantage d'être à côté de Paris quand même. C'est de pouvoir... bon là, avec le Covid, pas trop. Mais les musées, les sorties, faire découvrir la vie à nos enfants, c'est juste magique.
Quel est ton endroit kid-friendly préféré à Paris?
Alors, c'est super bizarre, mais le parc à côté des Halles, je l'aime bien. Il est simple. En plus, j'arrive en RER juste en dessous. Je l'aime bien.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille?
Mon projet rien que pour moi, c'est ma petite entreprise que je compte monter. Je sais pas quand exactement, mais ça va venir. Et notre projet en famille, on n'a pas particulièrement de gros projets. On aime bien voir la vie au jour le jour. Mais peut-être déménager et avoir une maison à nous. Parce que là, on est en location.
Merci beaucoup, Clara.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Clara, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 73 sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité... La vraie.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.